Yahvé, nous voulons te bénir et te célébrer parce que tu es Dieu, exalté dans les cieux et sur la terre. Nous célébrons ton nom, nous reconnaissons ton autorité, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu as pensé à nous en cette saison. Et Seigneur, tu as osé, tu as initié ce thème, osé recommencer, Seigneur, afin de partir avec nous d'un pas nouveau. Nous te célébrons, nous reconnaissons Seigneur ta majesté. Nous reconnaissons ton ouvrage. Viens donc à cette époque parler à nos âmes. Viens parler à nos esprits. Et que la salle soit saturée de l'atmosphère de ta présence. Que la salle soit saturée de ton esprit. Ne laisse personne rentrer comme il est venu. Seigneur, accomplis ton ouvrage. Et que les chaînes de l'enfer se brisent. Seigneur, accomplis ton œuvre. Nous t'en supplions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Salut ton voisin, dis-lui bonsoir. Dis à ton voisin bonsoir, sois la bienvenue. Ok, si tu l'as fait, bien aimé, bien vouloir t'asseoir. Excellence. Vous savez, nous entrons dans le deuxième module du programme. Le premier module était un moment de réintrospection. Il était question de s'examiner à nouveau et de visiter son histoire afin de dessoucher les origines, les causes de nos échecs, de nos blocages, de nos limitations. Je pense que ce programme, Oser recommencer, n'est pas l'initiative d'un homme. Je crois que en cette époque, c'est le langage de Dieu, c'est la causerie de Dieu, c'est la position de Dieu pour ton histoire, c'est la position de Dieu pour mon histoire. Position de Dieu pour le Cameroun tout entier. Et je pense que ce soir, Dieu veut commencer avec nous à ouvrir la porte des solutions. Dieu veut ouvrir une passerelle nouvelle afin que son peuple y passe et que les nations soient sauvées. Et ce soir, nous allons commencer avec le deuxième module qui initie les solutions. Le thème, c'est « Laisse Jésus-Christ régner ». Dis ça à ton voisin, laisse Jésus-Christ. Dis encore à l'autre voisin, laisse Jésus-Christ. Bien-aimé, je commence parce qu'on a beaucoup à se dire. D'entrée de jeu, je voulais te raconter une petite histoire. C'est un monsieur qui a acheté son terrain aux États-Unis. Il a acheté un superbe terrain. On lui a vendu ça à très bon prix. Et quand il a pris la maison, elle avait quelques éraflures. Il a décidé de rénover la maison afin d'y séjourner, afin d'y passer du temps. Mais seulement quand il a acheté la maison, quand il a appelé les techniciens pour y travailler, faire les finitions, les techniciens lui ont posé un problème. Ta maison est fondée sur une nappe d'eau. Et si tu ne remédies pas à ce problème, un jour il y aura des conséquences lourdes. Et le monsieur ayant regardé la jolie et superbe maison a dit non, ça ne peut pas même se briser comme ça. C'est fait avec du dur, du solide. Les ingénieurs les plus compétents de la région s'y sont mis pour pouvoir bâtir quelque chose qui donne de pouvoir rester en paix. Je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. Le monsieur s'est entêté et il a fini les travaux. Il a rénové la vieille maison et il s'est installé. Il y a fait un an, deux ans, la troisième année. Appelé son épouse avec ses enfants. Un jour au bureau, il a appris que la maison s'est effondrée. Et pendant que la maison s'effondrait, sa femme était enceinte et ils avaient déjà deux enfants. Les enfants et la femme sont morts dans la maison pour avoir négligé l'avertissement de ceux qui lui ont dit la maison est sur de mauvaises fondations. Il avait négligé cet avertissement parce qu'il comptait sur ce que ses yeux voient. Il comptait sur ses relations. Il comptait sur son intelligence. La maison s'est écroulée. Avec les enfants y compris. Toute la famille, les enfants y compris. La maison s'est écroulée. Et c'était le deuil. Il était inconsolable. Tout le fruit de son travail était mis dans cette maison. Tout le fruit de ses efforts était pour les enfants qu'il aime. Mais il a travaillé gratis. Chez nous, comme on dit, Jor. Il a travaillé Jor. Dis à ton voisin, ne travaille pas Jor. Ne travaille pas Jor. Dis-le-lui, dis à ton voisin, ne travaille pas Jor. Mais nous pouvons mener notre course. À la fin, Jésus-Christ te dit, ah, tu travaillais Jor. Tout ce que tu as fait tout au long de ton histoire là, c'est au log de 1. Ça ne vaut pas la peine. Ressaisis-toi pendant qu'il est temps. Pourquoi est-ce que nous pouvons échouer? Pourquoi est-ce que nous pouvons être bloqués? Le thème est assez indicateur. Laisse Jésus-Christ régner. C'est un impératif. C'est un ordre. Laisse Jésus-Christ régner. Quand on utilise l'impératif, ça veut dire qu'il y a un peu de tiraillement. Il y a hésitation. Et pourquoi l'auteur a ainsi intitulé le thème? C'est parce qu'il y a souvent bagarre dans nos vies. Il y a lutte quand tu as laissé Jésus prendre le pouvoir de notre histoire. Il y a une dispute interne. Et d'ailleurs, Dieu connaît nos histoires. Depuis la chute d'Adam et Ève, il existait trois types d'hommes. Le premier homme, la Bible l'a appelé l'homme animal. Il est décrit dans Romains 7. On l'appelle dans Romains, dans 1 Corinthiens 2, verset 14-15. Il est décrit là-dedans, on l'appelle l'homme animal. On l'appelle l'homme animal pourquoi? Sa vie, ses goûts, ses affections, ses attachements sont liés aux instincts grégaires, à la chair, aux passions, aux tendances. Il vit comme un animal. Tout comme le porc se nourrit et attend le lendemain, ainsi vit l'homme animal. Quand la Bible t'appelle un homme animal, ça veut dire qu'en dehors du manger, du boire, des questions qui concernent la chair, la biologie, qui concernent les muscles, il n'y a plus rien dans ta vie. Là, tu es classé dans le rang des hommes animaux. Maintenant, il y a d'autres hommes qu'on a appelés les chats, les charnels. Les charnels sont les gens qui, un jour, ont connu l'expérience de Jésus-Christ, mais demeurent des enfants quant à la foi, demeurent des bébés. Et quand tu es bébé, la Bible dit dans Galates 4, versets 1 et 2, que tu n'es pas différent d'un esclave. Ça veut dire que le sort de l'esclave, le sort de l'homme animal, est en fait ton sort. Galates 4, 1 et 2. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien. On n'a pas dit en certaines choses. On dit il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que quoi? Si tu connais Jésus-Christ, tu n'as pas encore acquis la maturité. Tu n'as pas encore acquis la liberté. Tu n'es pas esclave. Tes chaînes sont sur ton corps et t'empêchent d'évoluer, d'avancer vers la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi. La troisième classe d'homme, c'est celle vers laquelle nous voulons tendre. L'homme spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'homme spirituel? C'est l'homme qui marche selon les inclinaisons de l'Esprit Saint. C'est l'homme qui suit les tendances de Dieu au travers des saintes écritures. Voilà l'homme spirituel. Et l'homme spirituel est bien arrimé à la loi de Dieu. En fait, quel est le problème autour de laisse Jésus-Christ régner? Si tu ne laisses pas Jésus-Christ régner, en fait, le problème c'est que celui qui vit sans Jésus-Christ est sous un gouvernement. Celui qui ne vit pas avec Jésus-Christ est sous un autre gouvernement. Que tu vives avec Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ, tu es sous un gouvernement. Dis à ton voisin, tu es sous un gouvernement. Demande-lui lequel des gouvernements te dirige. Très bien. Je voudrais t'annoncer ce soir que l'issue du problème, la problématique, c'est que si Jésus ne règne pas, si Jésus ne s'assied pas dans ton histoire, il ne prend pas la première place, tu es sous un gouvernement. Et je voudrais t'annoncer que ce gouvernement s'appelle le gouvernement du monde des ténèbres. Tu peux dire ce que tu veux. Dieu dit que tu es sous le règne des puissances des ténèbres. Et tout ce qui concerne les ténèbres t'attaque. La deuxième issue du problème, c'est que quand tu ne connais pas véritablement quel est le gouvernement qui te conduit, tu es conduit à tout vent. Tu es mené à tout vent. Quand Jésus ne règne pas, tu es mené à tout vent. Tu es dirigé dans l'inconnu et tu arrives souvent à des solutions qui sont assez inconfortables. Troisième point, c'est que quand Jésus n'est pas assis dans ta vie, il y a résistance du monde des ténèbres. Tu ne peux pas t'affirmer comme tu veux. Tu peux avoir des bonnes idées, des bonnes initiatives, mais tu ne les accompliras jamais comme Dieu les a prévues. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces opposées qui s'élèvent pour résister à ta destinée, qui empêchent que tu deviennes l'homme, la femme selon le cœur de Dieu, que tu entres dans le projet de Dieu. Il y a les ténèbres un peu partout. Et Dieu te dit qu'il a regardé en Ésaïe 9 la terre. Il a vu que les ténèbres avaient envahi la terre. Et il a envoyé une lumière du ciel afin que cette lumière éclaire les fils des hommes. Cette lumière est arrivée parmi les hommes et les hommes ne l'ont point reçue.
Bien-aimé, l'urgence est que tu te mettes sous le gouvernement qui va te permettre de t'accomplir au mieux. Si tu n'es pas sous le gouvernement de Dieu, tôt ou tard, tu finiras par connaître des désolations. Tu seras confondu. Il y a nécessité. Donc, quelque chose se passe. Et Dieu a regardé sur toute la surface de la terre. Il s'est rendu compte d'un fait. Les fils d'Adam sont écrasés par le monde des ténèbres. Et tant ceux qui sont dans les synagogues, comme ceux qui sont en dehors, ils sont écrasés par la puissance des ténèbres. Il a regardé les hommes. Vous savez, la première création, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre, il a pétri, il a donné la forme, il a insoufflé. Il a mis son souffle sur la terre, elle est devenue une créature vivante. On l'a appelé l'homme. À la recréation, quand il a fallu que Dieu recommence les choses, il a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une femme qui était vierge, qui s'était séparée de tout ce qui est mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit la visiter. Il y a eu sainte conception. Cette femme s'appelait Marie. L'histoire est décrite dans Matthieu 1 à partir du verset 18. On dit que le Saint-Esprit est venu la visiter et il a eu une sainte conception. Dis à ton voisin, tu as besoin de la sainte conception. Tu as besoin de la sainte conception. Frère, il y a une conception, une espèce de grossesse que si tu n'as pas. Il y a une espèce de visitation que si tu n'as pas, jamais Jésus n'arrivera. Il faut la sainte conception. Si Marie n'avait pas accepté la visite du Saint-Esprit, le renouveau, l'homme de la promesse, le fils des ambitions, l'homme de ta destinée ne devait jamais apparaître. Pour que Jésus arrive, il a fallu que la terre soit renouvelée, qu'une femme se rende pure, qu'elle se dispose au service divin. Il a fallu la visite du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux que ton histoire recommence, si tu veux entamer des solutions, si tu veux recommencer un décollage, il est nécessaire que tu aies une sainte conception. Et la sainte conception ne se fait pas en public. Dis à ton voisin, ça ne se passe pas en public. Ça ne se passe pas en public. Bien-aimé, Dieu me dit de t'annoncer ce soir qu'il y a une église à laquelle il est attaché. Il y a une église pour laquelle son cœur bat. Il y a une église pour laquelle son penchant est prononcé de façon ouverte. C'est l'église du silence. Qu'est-ce que j'appelle l'église? Ce n'est pas une église, une dénomination ici sur la terre. C'est l'église qui adore dans l'invisible, dans les intentions et les motivations. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, si on parle de vrais, parce qu'il y en a beaucoup de faux. L'église est pleine de faux adorateurs. Et si l'église passe le temps à soupirer, il n'y a rien qui se passe. C'est parce que plusieurs terres sont indignes de recevoir la fécondité de la semence de la parole de Dieu. Écoutez, tout le monde peut recevoir la semence. Ça tombe sur la terre de ta vie. Mais toutes les terres ne produisent pas. Dites-vous, maman, vous qui cultivez maintenant, est-ce qu'une maman qui a semé depuis et qui sait que la graine est mise en terre n'est pas en train de prier pour que la pluie tombe? Est-ce qu'elle prie ou elle ne prie pas? Pourquoi est-ce qu'elle prie? Pourquoi est-ce qu'elle prie? Si elle ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer? Si elle ne prie pas, le soleil descend, les jugements descendent. Et quand le soleil tombe sur la terre, elle devient incapable d'amener le projet de la graine à bout. C'est pourquoi les mamans prient maintenant. Les mamans soupirent. Les mamans désirent la descente de la pluie. Maman, il faut que tu désires la descente de la pluie du ciel. La descente de la bénédiction divine. Il faut que tu soupires pour que l'Éternel visite tes terres et qu'il les rende capables de féconder la semence de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qui ne faillit pas. La parole de Dieu est une semence qui a un projet que Dieu a incrusté en elle. Ce projet doit être mené à terme. Bien-aimé, avant, il faut que ta terre soit qualifiée pour porter la semence de Dieu. Sinon, tu vas bon attendre la fécondité. Tu n'attendras pas. C'est ce qui explique le fait que beaucoup de gens sont assis dans l'église depuis. Ils attendent les signes annoncés par Dieu, par le Saint-Esprit sur l'église. Ils attendent tous les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en eux. Et ils ne voient aucun de ces signes. Et de plus en plus, je vois une maman, un papa s'inquiéter. Est-ce que ma part est vraie? Je m'en vais comme ça vers l'éternité. Je m'en vais à la rencontre de Jésus-Christ. Mais est-ce que l'histoire dans laquelle je me suis engagé, vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que demain Dieu me dira qu'il me reconnaît? Bien-aimé, pose-toi cette question sérieusement. Bouge pas d'eux, ne fais pas comme si tu n'entends pas. Jésus veut traiter avec toi. Il te faut les solutions vraies. Il faut que ça commence à changer. Il faut que ça commence à bouger quelque part. Il a fallu qu'une femme se dispose sur la terre et qu'elle dise à Dieu, envoie ton Saint-Esprit, envoie ton Saint-Esprit, renouveler mon histoire, qu'elle commence à soupirer après la visite de Dieu dans sa vie. Vous savez, tout Israël était oppressé par un ennemi, l'Empire romain. L'Empire romain écrasait la maison de Dieu du matin au soir, comme Satan écrase aujourd'hui les chrétiens dans des églises. Il empêche qu'ils respirent. La maison étouffait. Elle étouffait, elle suffoquait. Il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus de joie, plus d'ambition, rien ne marchait. Et du matin au soir, ils se rassemblaient par milliers. Ils se mettaient autour d'une muraille qu'on appelle la muraille de Jérusalem. Ils étaient autour et ils passaient des jérémiades à Dieu. Ils disaient à Dieu leur misère, ils racontaient leur souffrance à Dieu. On a appelé ce mur le mur des lamentations. Là, les lamentations se faisait du matin au soir. La maison de Dieu dans les ténèbres n'en pouvait plus. Il a fallu une femme qui dise, Seigneur, me voici, tu peux m'utiliser. Seigneur, je ne veux plus avoir de vie secrète. Seigneur, je ne veux plus avoir de vie privée. Seigneur, je ne veux plus avoir les choses qui me maintiennent captif dans le silence. Je veux composer avec toi. Cette femme a commencé l'église du silence. Elle a commencé à laisser Jésus-Christ lui parler quand elle est seule. Elle a appris à aimer Jésus là où il n'y avait pas de pasteur, là où il n'y avait pas de rabbin, là où il n'y avait pas de maître spirituel. Seule, toute seule, elle a commencé à chercher la face de Jésus. Elle a aimé Jésus dans le secret. Elle a aimé Jésus dans le silence. Et comme Jésus est le Dieu qui voit dans l'invisible, il est venu visiter cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un qui cherche Jésus de tout son cœur et qui est véritablement dévoué, que ne t'impatiente pas, ne te lasse pas. Jésus connaît les cœurs qui le prient en vérité. Si tu as soif, tu as soupiré, tu es fatigué des maladies du Cameroun, et tu t'es disposé à être cet instrument que Dieu utilise, alors n'aie pas peur, ta terre va être visitée. La visite de Dieu va se faire. Dieu va rencontrer le désir de ton cœur. Dieu poursuit les âmes qui crient après lui. Il y a un langage que Dieu comprend, le langage des cœurs qui sont vrais. Si tu es vrai dans ta démarche, alors là, tu as commencé à ouvrir une histoire avec Dieu. Mais seulement, il faut que tu ouvres toutes tes portes, tu ouvres toutes tes fenêtres, afin que la moisissure qui était dans ta maison, dans ton histoire, soit effacée, que la lumière du Tout-Puissant y entre partout, et qu'une histoire nouvelle commence. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à ouvrir les fenêtres? Est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte? Est-ce que tu es prêt à ouvrir les coffres forts de la vie secrète et privée? Est-ce que tu es prêt à ouvrir tout ce sur quoi tu avais dit à tes enfants, personne ne révélera ses secrets si tu révèles ses mauvais pour la famille? Est-ce que tu es prêt à ouvrir cela à Jésus ce soir? Si tu n'es pas prêt à ouvrir, bien-aimé, tu n'es pas prêt pour la sainte conception. Pour la sainte conception, il faut absolument que tu t'ouvres. Cette femme Marie s'est disposée et le Saint-Esprit est venu visiter la femme. Quand le Saint-Esprit est venu visiter la femme, même l'homme qui voulait marcher avec elle devrait être qualifié avec elle. S'il n'était pas qualifié, il devait devenir le premier opposant, vrai ou faux. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit a visité, il a commencé à se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, femme, pour que tu aies l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme lui dit que c'est Dieu, je m'imagine à son époque, et ça ne s'était jamais passé. Il devait dire que ton histoire est vraiment louche. Comment tu racontes des bêtises comme ça? Bien-aimé, quand il y aura sainte conception, les gens qui t'ont connu ne te reconnaîtront pas. Parce que Dieu va te pousser à faire des choses peu ordinaires. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas sortir de ta zone de sécurité. Et tu vas commencer à passer des veilles dans la présence de Dieu. Écoute, c'est une histoire qui se passe dans la chambre de noces. Ça ne se passe pas en public. La vraie église de Jésus, elle se bâtit dans le silence et dans le secret. Est-ce que tu es entré dans la chambre? Tu t'es laissé découvrir par Jésus. La fiancée de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui porte sur elle des vêtements mystérieux. Non, c'est quelqu'un qui se laisse découvrir par Jésus. Est-ce que tu peux enlever tout ce que tu avais qui était pour toi un support? Souvenez-vous de Bartimée. Quand Bartimée, quand il a vu Jésus passer et que ça s'est passé dans son cœur, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Bartimée a lâché son manteau et il a couru vers Jésus. Et quand il est allé vers Jésus, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, des choses se sont passées. Jésus est sensible au langage du cœur. Jésus est sensible à la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut totalement laisser son histoire être visité par Dieu ce soir? Sinon, tu ne peux pas recommencer. Le recommencement demande que tu ouvres toutes les portes. Bien-aimé, cette femme a ouvert ses portes. Et quand elle a ouvert ses portes, Jésus a commencé à faire quelque chose. Dieu a envoyé dans ses entrailles le fils de la promesse. Il a commencé par inquiéter l'ami de plus direct, Joseph. Il fallait que Joseph ait le témoin du Saint-Esprit pour marcher avec Marie. Il y a une marche céleste, une marche de l'esprit, une union sainte qui s'entame lorsque tu commences à marcher avec Dieu. Il y a des amis qui vont te quitter, d'autres vont rester. Seuls les amis qualifiés vont continuer avec toi. On va t'appeler secteur, on va t'appeler papa Jésus, on va t'appeler maman Marie, on va t'appeler de tous les noms. Mais une chose s'est passée, dans l'invisible tu connais ce qui s'est passé. La sainte visite a eu lieu. Mais il se passe que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont eu ce moment de battement de cœur. L'église a été visitée par Dieu. Et puis, il y a eu des sentiments de repentance. Les hommes sont venus, ils ont confessé. Mais jusqu'aujourd'hui, des choses se passent. Et tous les jours, dans l'église de Jésus-Christ, on nous enseigne que chacun a un ministère, on a des appels. C'est pas ça. Mais combien entrent dans leurs appels? Combien entrent dans leurs appels? Combien? Combien entrent dans leurs appels? Très peu. Ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a été conçu dans l'enfer, Satan a commencé à s'agir, à s'agiter, à paniquer. Quand il y a sainte conception, bien-aimé, tu n'es plus le même, l'enfer commence à paniquer. Quand tu commences à changer, ton voisinage, tes amis intimes là, on commence à voir la décantation. Il y a décantation autour de toi. Les faux amis commencent à prendre leur bagage. Mais il y a les faux amis qui partent. Mais il y a aussi les Sambala et les Tobija qui disent que bâtissons ensemble. Viens, on va construire ensemble. On va faire les choses là ensemble. Il y en a aussi qui sont têtus et qui veulent assister à la grossesse. Et ils ne veulent pas assister à la grossesse pour adorer l'enfant comme Hérode. Ils veulent assister à la grossesse pour étouffer le petit enfant. Combien de vies ont été étouffées par les mauvais amis? Combien de vies ont été étouffées par les ténèbres? Tu étais chaud au début de ta conversion. Aujourd'hui, tu as du mal à te reconnaître. Tu ne sais pas ce que tu es devenu. Et de temps en temps, tu t'enfermes dans ta chambre et tu verses des larmes. Tu verses des larmes. Tu te demandes qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Bien-aimé, je voudrais te dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a une sainte guerre qui se passe dans l'invisible. Il y a une sainte guerre qui se passe dans l'invisible pour empêcher que la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi n'arrive. Il y a un dragon qui veut étouffer l'enfant dès le premier moment. Et il va travailler avec le voisinage. Il va travailler avec tes idées. Il va travailler avec ton passé. Il va travailler avec ton expérience. Il va travailler avec ton foi pour empêcher que le Jésus selon le cœur de Dieu naisse. Combien de serviteurs de Dieu sont sur le champ de mission? Mais ils servent avec la pensée ancienne. Ils servent avec le jugement de Satan. On lui rappelle tout le temps. Satan lui rappelle tout le temps. Tu te rappelles que tu es l'ancien loser. Tu es l'ancien prostitué. Tu es l'ancien. Tu es maman gentille. Tu es maman tout. Et tu es là. Tu n'arrives pas à lever la main parce que tu es honte de ce que Satan avait dit de toi. Tout simplement parce que les fondations de l'ancien monde, les fondations de l'ancien maître demeurent. Bien-aimé, si tu veux avancer avec Dieu, après la sainte conception, pour protéger le nouveau-né, il faut que tu changes de mentalité. Tu prends conscience du fait que tu es la mère de Jésus. Tu prends conscience du fait que tu es la mère du nouvel homme. Et la mère de Jésus ne se comporte pas n'importe comment. Bien-aimé, quand Jésus est né, pour commencer le ministère, il n'a pas commencé le ministère. Au départ, il a fallu que maman protège, maman encadre. Il a fallu que lui-même s'élève, qu'il entre en intimité, qu'il bataille pour retrouver les chemins du Seigneur. Pendant ce temps, il y avait un homme dans l'ombre qui annonçait ton ministère de début. Jean-Baptiste, j'ai nommé. Jean-Baptiste, c'est l'initiateur. C'est l'ouverture. C'est l'homme qui fait le chapia sur le chemin. Bien-aimé, avant d'entrer pleinement dans ton ministère, avant d'entrer pleinement dans la personne que Jésus veut, avant d'entrer pleinement dans l'appel de Dieu, il y a une sainte convocation qui va se passer, il y a un nettoyage général qui doit se passer. Le Jean-Baptiste de ton histoire va te voir sortir. Il ne peut plus s'enfermer. Écoute, il y a un Jean-Baptiste en toi qui veut sortir. Et on dit que Jean-Baptiste se nourrissait de quoi? Miel sau. Il s'habillait comment? L'atmosphère était favorable. Il prêchait où? Bien-aimé, ça annonce les prémices de ta sortie quand tu vas vouloir rendre ministère. Ce ne sera pas facile. Les débuts du ministère, c'est les privations, ce sont les limitations, c'est la douleur. Mais ça prépare le futur ministre de Dieu. Ça prépare le futur ministre de Dieu. Jean-Baptiste doit s'élever dans ta vie pour commencer quelque part. Si Jean-Baptiste n'est pas encore levé, quoi que soit ton amour, si tu n'es pas encore sorti pour briser les limites, pour commencer quelque part à dire à Dieu, Seigneur, me voici, utilise-moi. C'est que jamais le rêve d'enfanter Jésus, de voir Jésus régner n'aura place. Il a fallu que Jean-Baptiste nettoie le chemin. Et Jean-Baptiste parle de ton début de ministère. C'est pour ça que l'histoire de Jean-Baptiste se rapporte à tout ce qui inclut un ministère glorieux et approuvé de Dieu. Si tu n'as pas le ministère de Jean-Baptiste, tu ne commences pas comme Jean-Baptiste. Que tu manges le miel sauvage, les privations, que tu t'habilles de poils de chameau, tu acceptes les positions parfois inconfortables, que tu prêches dans le désert, tu parles, c'est ta famille qui te combat. C'est que tu ne peux pas connaître le ministère que Dieu a préparé pour toi. Tous ceux qui sont bâtis par Dieu et qui entrent selon le plan de Dieu commencent à passer par les chemins de Jean-Baptiste avant que Jésus n'arrive. Si tu refuses de passer par le chemin par lequel Jean-Baptiste est passé, bien-aimé, tu ne verras jamais la naissance de Jésus-Christ. On se comprend? Et pour que Jésus-Christ prenne place, il faut que Jean-Baptiste meure. Il faut que Jean-Baptiste... Il faut que Jean-Baptiste... Écoute, Jean-Baptiste, c'est le ministère de l'homme naturel. C'est le ministère de celui qui pense avec son intelligence. C'est le ministère de l'homme qui se déploie. Mais l'homme qui n'a pas encore atteint la dimension de l'esprit, il prépare le ministère de Jésus dans ta vie. Et Jésus, c'est le frère. Et Jésus, c'est l'accomplissement de la pensée de Dieu. C'est le rêve de Dieu. Mais avant que Jésus n'entre, il faut que tu acceptes le ministère de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste doit mourir. Mais avant que Jean-Baptiste ne meure, il y a une guerre qui se passe. Écoutez, Jean-Baptiste, quand il fallait qu'il parte, il a envoyé dire à Jésus quand il était en prison. Il a entendu que Jésus est sorti. Il faisait des miracles, Jésus prêchait. Jésus, il envoie demander à Jésus, est-ce que c'est toi le vrai ou devons-nous en attendre un autre? La chair s'inquiète du fait qu'on va perdre le pouvoir, du fait qu'on va perdre la position, du fait qu'on va perdre les relations, du fait qu'on va perdre tous les avantages qu'on avait. Jean-Baptiste posait les questions essentielles. L'homme charnel ne quitte pas le pouvoir comme ça. L'homme de la première étape, le ministre à l'état primaire, ne veut pas laisser l'esprit conduire. Il a toujours l'intention de vouloir conduire les choses par son intelligence. Quand un problème se passe, il cherche d'abord les relations. Il cherche les voies qu'il connaît ordinairement. Or, il doit laisser place. Si le grain de blé tombait en terre, ne meurt, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Si Jean-Baptiste ne meurt, Jésus dans ta vie ne prendra jamais le pouvoir. Jésus de ton histoire ne prendra jamais place. Que Jean-Baptiste meure. Il y en a là qui ont commencé le ministère. Ils ont commencé des petites histoires. Mais le Saint-Esprit veut les amener plus haut. Ils ne sont pas prêts à laisser le Saint-Esprit diriger. Parce que le Saint-Esprit t'amène vers l'inconnu. Le Saint-Esprit t'amène des choses nouvelles. Et comme l'homme n'aime pas les choses nouvelles, les choses qu'il ne maîtrise pas, les choses dans lesquelles il ne réfléchit pas, l'homme charnel a peur. Il est encore là, il hésite à laisser place à Jésus. Es-tu celui qui doit arriver ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste a posé la question. Jésus lui a dit pour l'aider. Allez lui dire. Durant le ministère de Jean-Baptiste, Dieu a oint sa marche. Dieu a relâché de temps en temps le Saint-Esprit pour accomplir des choses éclatantes. Mais mieux, pendant ces temps, Jésus, qui était encore petit, avait déjà commencé à s'épanouir. Il pouvait libérer les captifs, ressusciter les morts. Il pouvait changer la destinée des hommes. Il dit, allez lui dire ce qui se passe. Si la chair n'arrive pas à croire le ministère de l'esprit, alors que les œuvres de la chair, les œuvres faites par le Fils de l'homme, te servent au moins de témoignage. Vous savez ce qui s'est passé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs? Eux-mêmes se posaient la question, pendant que Jésus était mort, Jésus était déjà ressuscité, Jésus a commencé à marcher avec eux. Un jour, ils allaient à Emmaüs, Jésus marchait avec eux. Et ils étaient en route, ils se demandaient bien, qu'est-ce qui va se passer, comme l'objet de notre amour est mort. Et puis, ils sont arrivés dans la ville d'Emmaüs, ce qui s'est passé, quand Jésus s'est assis avec eux à la table, Jésus a rompu le pain. Leurs yeux se sont ouverts. Écoute, à des moments, quand spirituellement parlant, tu es endormi, Dieu permet que des œuvres matérielles arrivent pour te réveiller, pour te replacer dans le chemin du Saint-Esprit, afin que tu t'en rendes compte. Et puis ils se sont demandé, est-ce que nos cœurs ne nous parlaient-ils pas en chemin? Est-ce qu'il n'y avait pas ces petits murmures qui nous rappelaient que c'est Jésus avec qui nous marchons? Je suis en train de dire à quelqu'un, il sent le parfum de la visitation de Dieu. Il sent l'atmosphère changer autour de lui. Il a senti les choses passer à une autre dimension. Il se demande s'il est dans le vrai. Il se demande s'il n'est pas compliqué. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a commencé ici à prier tout doucement. Il a senti le don de langue monter. Et il a bloqué parce qu'il a dit à l'église évangélique, on n'aime pas ça. Je suis en train de dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas le ministère de l'église évangélique. Écoute-moi. C'est le ministère de Dieu. L'église évangélique est au service de Dieu. Le plein évangile est au service de Dieu. Il n'y a pas d'église qui a le ministère du Saint-Esprit bloqué pour lui. Chaque fois que le Saint-Esprit va se manifester, tu vas sortir dans l'ordinaire. C'est l'enfant qui veut prendre forme. C'est le vrai qui veut prendre forme. Quand il va commencer à se déployer, l'entourage va commencer à paniquer. Toi-même, tu vas te douter. Il va voir les choses qui se passent dans l'air. Tu vas te demander si c'est toujours toi. De temps en temps, tu vas sentir cet esprit en toi te donner l'envie de te lever dans la nuit et de prier, de passer des veilles dans la prière, de dire à Dieu combien tu l'aimes, de lui déclarer ta folie, de passer la nuit à chanter. Et tu vas avoir peur de ce que ton mari va dire. Qu'est-ce que la femme là est devenue? Ou tu vas avoir peur de ce que ta femme va dire ou tes enfants. On va dire, qu'est-ce qui a pris le père là? Ou alors, tu es l'enfant à la maison. Tu vas te demander, qu'est-ce qu'on va encore dire? Comment est-ce qu'on va me regarder? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et tu es là dans la chambre, tu trembles. Tu trembles, Jésus veut prendre place. Tu trembles. Bien-aimé, si Jean-Baptiste ne cède au ministère de l'Esprit, ce sera compliqué. Jésus doit prendre place. Si Jésus ne prenait pas place en ce moment, l'histoire d'Israël était bloquée. Sa destinée était bloquée. Tout ce qu'on pouvait faire ne pouvait apporter aucune solution. Aucune solution. Bien-aimé, le pasteur peut prier pour toi. Il peut te dire des choses, mais il a des limites dans ta vie. Écoute, il peut t'accompagner dans la prière, mais il y a des prières que toi seul es appelé à faire. Si même il prie pour toi et que tu ne dis pas de ta propre bouche, ça ne va pas marcher. Sœur, frère, il faut accoucher Jésus. Les douleurs peuvent faire mal. Tu peux sentir les contractions. Et la nuit, le voisin dit, tais-toi, laisse-moi dormir. Bien-aimé, il faut que tu supportes. L'enfant va arriver. Les contractions peuvent te réveiller à 2h, 3h, 4h. Jésus doit arriver. Tu ne peux pas l'empêcher. Ou alors tu ne dois pas l'empêcher. Tu peux l'empêcher, mais tu ne dois pas l'empêcher. Si tu empêches qu'il prenne vie, la moisson de l'espoir des hommes sera désespoir. On va beau attendre des moments de rafraîchissement. Dans ta famille, dans l'église, on ne va pas voir pourquoi le ministre de Dieu est allé se cacher derrière la religion. Le ministre de Dieu est allé se cacher derrière les principes. Le ministre de Dieu est allé se cacher derrière les lois. Bien-aimé, le royaume des cieux et la visite du Saint-Esprit, le ministère de Jésus, c'est le ministère de l'innovation, des changements. Jean-Baptiste doit pouvoir mourir. S'il ne meurt pas, il y a problème. Écoutez, tu peux avoir toutes les promesses, mais tu n'entres pas dans les promesses parce que tu n'es pas là où il faut, parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Bien-aimé, il faut faire très attention. Regardez Abraham. Abraham était l'homme de la promesse. Il était l'homme de la bénédiction, vrai ou faux? Il était l'homme qui avait reçu un plan de Dieu. Je ferai de toi le père des nations. Et pendant qu'il attendait, le temps passait. Le temps passait. Il était là avec Sarah jusqu'à 70 ans. Le temps passait. Et à un moment, il a commencé à paniquer. Et sa femme qui était à côté de lui, lui a dit, on fait comment papa? On fait comment? Elle est partie chercher Agar. Elle a dit que ne restons pas quand même comme ça, on ne sait pas. Elle a commencé les misongi, les calculs. Elle a commencé à analyser. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Il y a des gens qui aiment aider le Saint-Esprit. Il y a des gens qui aiment aider Dieu. Il y a des gens qui aiment proposer des choses à Dieu. Et Sarai lui a proposé de prendre Agar. Il a pris Agar, il a mis à la maison. Mais à force de rester avec Agar, il s'est accoutumé à Agar. Il s'est connecté à Agar. Au point où Agar a commencé, quand elle a senti sa grossesse, à se moquer petit à petit de Sarai. Et Sarai, dans la colère et dans la jalousie, a commencé à la maltraiter. Et puis petit à petit, l'enfant a grandi. L'enfant est né. C'était l'enfant d'Abraham. C'était un enfant d'Abraham. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. C'était un enfant, mais ce n'était pas la voie. C'était un enfant, mais ce n'était pas le projet. C'était un enfant, mais ce n'était pas la destinée. C'était un enfant, mais ce n'était pas l'homme des ambitions. Tu as un enfant que tu as pris depuis. Tu as des choses que tu as faites depuis. Tu as commencé à le faire sans Dieu. C'est un fils. C'est un projet. Les gens t'acclament même pour ça. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Tu as un travail, tu le fais. Tu as enfanté un projet raccourci. Tu es dans un travail après avoir choqué. Tu es dedans. Et tout le temps, le Saint-Esprit te parle. Et Dieu dit bouge. Dieu dit bouge. Dieu dit bouge. Tu es là, tu te tiens et tu serres les muscles. Bien-aimé, c'est un enfant, mais ce n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, Jésus ne vient pas par Ismaël. Jésus vient par Isaac. Si tu n'attends pas que Isaac rentre dans Sarai, tu ne rentres pas dans un chemin ordinaire, tu n'enfanteras jamais le fils de la promesse. Jésus ne naîtra pas. Si Ismaël ne veut pas être séparé d'Abraham, la promesse devait rester l'être morte. Un jour, Abraham n'en pouvant plus, il a regardé sa femme et il a dit à sa femme, mais on fait comment? Dieu lui a donné instruction. Très tôt le matin, il est allé prendre Agar avec son fils Ismaël. Il les a amenés au désert. Ça faisait mal en marchant. Il souffrait. Il pouvait pleurer. Il pouvait discuter. Mais il savait une chose. Dieu a parlé. Il faut que ça bouge. Ça faisait mal. Regardez l'arbre qui s'est collé au gui. Au début, c'était que deux entités. Mais à force de se coller, c'est devenu la même entité. Si on coupe le gui, qu'est-ce qui va se passer? L'arbre va saigner. C'est l'état de l'esprit d'Abraham. Abraham était collé à Agar. Se séparer Ismaël était plus facile. Mais Abraham dit un moment, Agar, je t'aime beaucoup. Ismaël, je t'aime beaucoup, mais viens ici. Il a pris Abraham. Il a pris Agar. Il a amené Agar au désert. C'était compliqué. Et là-bas, il a regardé Agar dans les yeux. Il a dit, je t'aime beaucoup, mais tu es l'objet de ma séparation avec le projet divin. Pardon, tu vas rester ici. Je t'en remets à Dieu. Prends Ismaël de ta vie. Prends Agar de ta vie. Les raccourcis, les impatiences et tout, amène-les à Jésus. Il te sépare du projet divin. Si tu ne permets pas que tu sois séparé, si tu n'admets pas que tu te sépares d'Agar et d'Ismaël, tu vas attendre le projet de Dieu pendant longtemps, tu ne verras jamais. Écoutez, Abraham a pris ses décisions tôt le matin. Si tu attends le soir de ta vie, tu risques de mourir sans l'avoir accompli. Bien-aimé, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre Ismaël. Prends Agar, les faux, les raccourcis, tous les détours. Depuis tu vis dans la tricherie, dans la tromperie, prends Agar, prends Ismaël. Amène-le là, ça fait mal. Dis à Dieu, Seigneur, ça fait mal. Mais j'obéis, Seigneur. Tu fléchis les genoux là. Et tu attends ce que Dieu va te dire. Si tu ne fais pas ça, Ismaël, Isaac ne viendra pas. Et Jésus ne naîtra pas d'Isaac. Jésus, c'est l'homme solution de ta destinée. Si Jésus n'est pas dans ta destinée, tous tes efforts sont vains. Tu es en train de perdre du temps. Bien-aimé, combien de temps as-tu perdu à résister avec Dieu? Depuis que tu es sur le même problème, tu n'avances pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il faut que tu quittes le trône de ton cœur et tu laisses la place à Jésus. Jusqu'à ce moment où tu discutes avec Jésus. C'est pourquoi le thème a dit, laisse Jésus régner. C'est un ordre. C'est parce qu'il y avait tiraillement. Depuis que tu es là, tu réfléchis. Je vais faire comme ça, il va faire comment? J'entendais le problème qu'on a posé hier. Quelqu'un dit, ouais, j'ai deux actes. Ou bien j'ai deux cartes d'identité. On dit que j'ai déjà deux doubles identités. Je vais faire comment? Bien-aimé, ramène le tout. Tu dois te séparer d'Agar. Tu dois te séparer d'Agar. Si tu veux, tu regardes les gens. Tu vas te séparer d'Agar. Écoute, il y a une chaise ici. Ne riez pas, frère. C'est le ministère de Dieu. Voilà, merci. Viens, viens, tu es déjà là, viens. Écoutez, la plupart d'hommes sont comme ça.
Dieu donné vient ici.
La plupart d'hommes sont comme ça. L'ancien homme est assis au trône de la vie. Écoute, la Bible dit dans Romains 8, au verset 20, ces paroles, lisons vite, rapidement. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous ai dit que le temps était court. Romains 8, verset 20. Romains 8, verset 20. Écoute, la création a été soumise à la vanité. Pour le moment, attends. Je joue le rôle de vanité, je ne suis pas vanité. Hein. La création, lui, a été soumise à la... Ça veut dire qu'il y a un autre roi assis sur la place de son cœur. Continue.
Non de son gré,
il ne veut pas. Mais vanité a assis. Vanité dans le regard, vanité dans les désirs, vanité dans les aspirations, vanité dans la pensée, est assis sur le trône. La création est là.
Mais à cause de celui qui l'y a soumise,
il ne peut rien. J'ai dit comme ça, je m'appelle vanité pour le moment. Je m'assieds dans le trône de sa vie et j'ordonne. Monsieur, aujourd'hui, si tu ne manges pas le pilé, tu n'as pas mangé, ta vie n'est pas bonne. Monsieur, aujourd'hui, si tu ne bois pas le Coca-Cola, ça ne va pas. Monsieur, aujourd'hui, s'il n'y a pas fornication ou adultère, ça ne va pas. Et on voit les hommes déambuler. Chacun suivre ses propres voies en société. Vanité est assis au trône. Vanité est là. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus regarde vanité. Jésus arrache vanité. Et Jésus dit, écarte-toi. Non, pas toi. Écarte. Oui. Lui s'écarte. C'est Jésus qui prend le combat en main. Jésus s'assied sur le trône. Et puis Jésus lui dit, place-toi derrière moi. Voilà comment la vie chrétienne commence. Jésus se positionne. Et puis quand Jésus se positionne, il ne peut pas rester en avant-garde. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie devant. Et Jésus se met derrière. C'est Jésus qui lui donne les ordres. Quand il se déploie, on voit la gloire. On voit la puissance. On ne le reconnaît plus. L'homme faible qui se soumettait à vanité ne se soumet plus à vanité. Il ne pense plus va. Il n'agit plus. Mais Jésus est là. Quand on reste, on applaudit pour lui devant. On le voit, son visage a changé. Il décrète des choses, ça arrive à l'existence. On pense qu'il est devenu très. Mais au fond de son cœur, il sait que ce n'est pas. C'est celui qui est derrière. Et qui n'est même pas derrière lui, qui vit. Hein? Écoute, je voulais te dire, prends la chaise. Je voulais te dire que Jésus veut prendre cette place dans ta vie. Jésus veut prendre le pouvoir en toi. Et Jésus veut vivre en toi. Jésus, en vivant en toi, peut recréer des situations, recréer les événements, recréer les circonstances. Bien-aimé, Jésus doit régner. Il faut que Jésus règne. Absolument. Si Jésus ne règne pas, c'est chaud. C'est très mauvais. Jésus doit régner. Si tu finis ton histoire sur terre sans que Jésus ait régné, c'est un problème. Je vais te dire pourquoi Jésus doit régner. Parce qu'il a venu, il a vaincu les ténèbres et il a vaincu vanité. Deux, pourquoi? Parce qu'il a payé la facture de ta dette. Colossiens 2, verset 14. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a effacé ta dette et qui subsistait contre nous en les clouant à la. C'est pourquoi Jésus doit régner. Trois, lui seul peut plaider efficacement devant Dieu en ta faveur. Lui seul peut entrer. Dis Père, j'ai payé le prix pour lui. Dis Père, ne regarde plus comme ça. La facture a été payée. Lui seul peut te relever devant des adversaires. Lui seul peut relever ta tête face aux compromissions, face à la soumission du mal dans ton histoire. Quatrième argument, c'est que lui seul connaît ta vraie valeur. Écoute, toi-même tu ne connais pas ta vraie valeur. Parce que vanité t'a corrompu l'intelligence au point où tu ne connais pas ta vraie. Lui seul peut te donner de voir ta vraie. C'est pourquoi tu dois absolument laisser Jésus régner. Jésus absolument doit régner. Écoute, Jésus, dans nos faiblesses, connaît nos limites. C'est pourquoi, un moment, quand tu n'arrives pas à lui laisser la place de régner dans ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène au désert. Écoute, il t'amène au désert. Et il y a des gens qui sont entrés au désert par tétutesse. Il a commencé le ministère, le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser, mais il ne comprenait pas le langage du Saint-Esprit. Jésus a amené au
désert. Vous savez le but du désert? C'est qu'il n'y ait plus de support humain, plus de brancard humain. Au désert, plus de dialogue. Au désert, plus de distraction. Au désert, c'est le face-à-face avec Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste est allé au désert. Lui-même, pour commencer sa part, il a dû travailler au désert. Jésus lui-même, pour commencer le ministère, Jésus de ton histoire va naître en commençant par les déserts. Jésus a commencé. On dit qu'il passe 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est le texte de dimanche, non? Et on dit que Satan se présente pour tester le ministre, empêcher que Jésus entre dans le ministère avec puissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre. Première tentation. Il dit, comme il avait faim là, il dit que transforme les pierres en pain. Les premières tentations que tu regarderas en voulant entrer dans le ministère, en voulant laisser Jésus régner, ce sera les tentations liées à la chair. Le manger, le boire, le vêtir, tout ce qui te permet d'avoir un bon visage, une belle renommée. Premier point. Deuxième point, que fait Satan? Satan ne s'arrête pas là. Satan l'amène au-dessus, à un endroit élevé au-dessus du temple. Bien aimé, c'est à l'église. Les personnes qui vont faire le congossa sur toi vont te congossailler jusqu'à ce que tu vas vouloir démissionner. C'est à l'église qu'on va tenter. On va te proposer les choses les plus graves pour que tu tombes. N'est-ce pas à l'église que Jésus a connu ses plus grandes tentations? N'est-ce pas à l'église parmi les frères qu'il a connu les gens qui l'ont fait? Frère, l'église, en commençant le ministère, que parfois on va te trahir, mais Dieu ne permet pas que tu sortes. C'est un milieu d'incubation où le futur ministre est préparé, où Jésus naissant est enveloppé dans les langes. C'est dans ce milieu-là que Jésus se prépare, le Jésus selon le feu de Dieu se prépare. Tu dois passer par à l'église. Tu seras éprouvé. Tu vas faire le ministère. Quand tu vas rendre le ministère, on va te critiquer. Le jour où tu fais bien, on ne dit rien. Le jour où tu fais mal, ton histoire se divulgue partout au quartier. Tu apprends comment tu es, les formes de ta tête, les formes de tes pieds au quartier. Ce sont les frères de l'église. Écoute, Satan n'a pas fait ça seulement. Troisième tentation, qu'est-ce que Satan fait? Satan lui prépare, lui présente la gloire du monde. Et tu vas même parfois... Quand le ministre Jésus va commencer à sortir, on va te proposer des grandes relations, les grands contacts. On va t'amener dans des grands milieux pour te faire oublier l'humilité chrétienne et te faire oublier qui tu es et de là où tu viens. Et dès que tu as commencé à manger, le ministère est fini. Dès que tu as commencé à boire avec les grands, ton langage a changé. Combien de ministres de Dieu sont devenus l'image d'eux-mêmes à cause des grands milieux, des grandes relations? À cause des gros enfants, la gloire du monde. Le monde a une gloire. Si tu laisses le monde entrer dans ton histoire, elle va te séduire. Il va te séduire, pardon, avec sa gloire. La gloire du monde va te séduire. Et tu ne seras plus que l'image de toi. Satan a tenté Jésus, mais Jésus lui a rappelé, il est écrit. L'amour du royaume en lui était plus grand que les propositions qu'on lui faisait. Jésus n'a pas accepté fléchir les genoux devant la compagnie. Jésus a avancé. Il a renoncé à ces choses pour entrer dans le service. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, pareil, est sorti de la gloire. Il a abandonné la gloire en Égypte pour aller au désert. Souvenez-vous. Et quand il revient de là, Monsieur marche avec les babouches. L'ancien grand homme n'a plus pour compagnon qu'un bâton. Le voilà en train de marcher dans le désert. Bien-aimé, tu vas te retrouver seul dans le désert. Mais tu ne seras jamais autant assisté que quand tu es dans le désert. Quand tu es dans le désert, le cortège des anges est avec toi. Tes batailles ne sont pas tes batailles. C'est le Saint-Esprit qui livre bataille à ta place. Humainement, on te voit seul, mais tu es accompagné de la multitude des saints. Bien-aimé, Jésus doit prendre place en toi. Cesse de l'étouffer. Cesse de discuter avec lui. Tu as déjà beaucoup tiraillé. Dieu t'a dit, sors de ta zone de confort. Sors de tes habitudes. Sors de ta façon de faire. Depuis que tu te disputes avec lui. Aujourd'hui, Jésus te dit encore qu'il faut que tu oses le Il faut que tu oses recommencer. Il faut que Jésus sorte. Et pour cela, il faut que Jean-Baptiste meure. Quand Jean-Baptiste meurt, Jésus prend sa place. Et on annonce partout que Jésus procède aux guérisons. Jésus procède aux résurrections. Jésus change les destinées. Jésus nourrit les hommes. Jésus accomplit. Il y a le Jésus de ton histoire qui doit sortir. Il doit naître. Pour qu'il naisse, il faut que tu lui ouvres la place. D'antan, les hommes n'ont pas trouvé de place pour Jésus. C'est dans une étable qu'il a trouvé place. Bien-aimé, est-ce que tu vas répéter l'histoire? Est-ce que tu vas dire ce soir à Jésus, ma vie m'intéresse, je vis comme j'aime vivre, j'aime mes façons de faire. S'il te plaît, va ailleurs chez le voisin, trouver place. Ou est-ce que tu vas dire ce soir à Jésus, j'ai assez discuté avec toi, je me suis assez tiraillé avec toi, mes efforts n'ont rien donné. Tout au long du premier module, on m'a montré mes échecs. Seigneur Jésus, je lève les mains. Tu dois régner. Viens prendre le devant. Et régner, ce n'est pas partager avec Jésus. C'est laisser Jésus décider. C'est lui laisser tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut apprendre à s'effacer? Qui veut entrer dans la sainte conception? Qui veut, à partir d'aujourd'hui, dire à Jésus, même si tu m'emmènes dans le désert comme Jean-Baptiste, je suis prêt à commencer quelque part. À prêcher l'évangile aux scorpions, à prêcher l'évangile dans le désert, à vivre les réductions, à vivre les privations. Mais Seigneur, pourvu que tu règnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à porter la grossesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à laisser Jésus prendre le trône de son histoire pour changer sa destinée? S'il y a une telle personne dans la salle, bien-aimé, fais te mettre sur tes deux pieds. La Bible déclare que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas le nombre des gens dans l'église. Ce n'est pas l'effectif qu'on attend. Non, c'est la manifestation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Où sont les hommes et les femmes qui ont reçu la sainte conception? Où sont les hommes et les femmes qui vivent l'église du silence? Qui vivent l'église du culte d'adoration dans l'invisible? Où sont ces hommes qui adorent Dieu lorsqu'il n'y a plus les paroissiens de Tamja? Où sont ces hommes qui reconnaissent l'autorité de Jésus lorsqu'il n'y a plus de brancards, lorsqu'il n'y a plus de support? Bien-aimé, commence à ouvrir ta bouche. Dis à Jésus, je te bénis. Je te bénis parce que tu as fait de moi un privilégié. Je te bénis pour les desseins glorieux que tu as attachés à mon histoire. Je te bénis pour toute la couronne que tu as déposée sur ma tête. Seigneur, je te remercie. Si peu digne que je suis, oh Yahvé, pour moi tu as ouvert les cieux, tu as ouvert une passerelle. Et au travers de cette passerelle, je peux marcher, Seigneur Jésus. Merci pour les desseins glorieux. Merci Seigneur d'avoir pensé de venir me racheter, d'avoir pensé me sauver, me tirer de la main de vanité, m'arracher du pouvoir de vanité. Bénis le Seigneur. Parce qu'il a accompli pour toi ce que tu ne pouvais pas faire. Il a brisé la puissance de vanité. Il a brisé la puissance du péché et sa séduction. Dis merci à Dieu. Dis-lui que tu lui es reconnaissant. Dis-lui, Seigneur, j'étais pris dans le piège de vanité. Appelle vanité par son nom. C'est le mensonge, dis-le. C'est le vol, dis-le. La convoitise de la vie, dis-le. L'hypocrisie, dis-le. La sournoisie, dis-le. La magie, la sorcellerie, dis-le. Seigneur Jésus, je te bénis. Parce que tu es venu briser le pouvoir de vanité dans mon histoire. Je te bénis. Oh Seigneur, je n'étais pas digne. Je n'étais pas digne, pas du tout digne. Tu es venu briser le pouvoir de vanité. Seigneur, je te remercie. Parce qu'après avoir brisé le pouvoir de vanité, tu envoies, Seigneur, le feu dans mon cœur ce soir. Tu envoies le feu dans mon cœur pour me mobiliser et pour faire la sainte conception. Oui, Seigneur, tu veux même donner de me mélanger à la destinée de Jésus. Tu veux me donner de ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour ce merveilleux projet. Que ton nom soit célébré. Qu'il soit exalté. Qu'il soit magnifié. Seigneur, les hommes me regarderont en furon. Mais Seigneur, je ne veux pas redouter les douleurs de l'enfantement. Je ne veux pas redouter la grossesse. Et même, Seigneur, les indispositions, les crachats qui sortent de ma bouche, tandis que je porte la grossesse, je ne veux pas les cracher dessus. Parce que je sais que c'est ton projet que je porte. Les hommes peuvent ne pas me comprendre. Mais toi, tu me comprends, Seigneur Jésus. Oh, Yahvé, je peux endurer 1 000, 10 000 douleurs. Mais je sais une chose. La fin vaut mieux que le commencement. La gloire à venir est de loin supérieure aux douleurs et aux pertes d'aujourd'hui. Seigneur, c'est pourquoi à toi je me donne. Je me donne à toi. Je m'offre à toi. Je me livre à toi.
totalement, entièrement.
Seigneur Jésus, viens régner ce soir.
Viens régner ce soir. Je t'ouvre la porte
secrète de mon histoire.
La porte secrète de ma destinée. La porte secrète de mes échecs. Je t'ouvre tout ce que
je peux dire à quelqu'un. Seigneur, viens recommencer mon histoire ce soir. Je veux recommencer à zéro. Je peux perdre des amis. Je peux perdre des compagnons. Je peux perdre des financeurs. Je peux perdre des alliés. Mais Seigneur, je tiens à ne pas te perdre. C'est pourquoi, Seigneur, je t'ouvre la porte. Viens, Seigneur, règne dans mon histoire.
Assieds-toi, gouverne sur mes pensées. Tu dis que je suis composé de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Viens me communiquer ta volonté dans mon esprit. Viens régner dans mon âme. Et Seigneur, donne-moi la discipline d'un vrai fils de Dieu pour y marcher avec droiture, avec fidélité, jour après jour.
Yahvé, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire que nous sommes contents de t'appartenir. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui sort ce soir et qui nous défie à sortir de nos ténèbres, qui nous défie à sortir de notre histoire passée, qui nous défie à te laisser la place. Seigneur, nous nous sommes disputés avec toi pour des longues années. Depuis que nous sommes enfants, nous n'avons pas atteint les standards que tu as prévus parce que nous nous disputons avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus tirailler. Aujourd'hui, Seigneur, je te donne mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je te laisse la première place. Aujourd'hui, Seigneur, je t'invite. Viens et installe-toi tout entier dans mon être. Seigneur, je peux perdre les avantages en famille. Je peux perdre l'approbation des autres. Je peux perdre le regard des autres. Mais Seigneur, je tiens à ton amitié. Je tiens à toi. Viens, installe-toi dans ma destinée. À partir d'aujourd'hui, mène-moi comme tu veux, là où tu veux, à ta façon, Seigneur. Je te suivrai. Merci pour ce que tu fais ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.